bien-aimés de Dieu. J'aime venir chez vous et vous appeler comme ça. Je ressens tellement ça quand j'arrive chez vous, ça me renouvelle à chaque fois. J'écoutais les chants, j'écoutais les prières et vraiment mon cœur était là devant le Seigneur et je disais, mais Seigneur, merci. Merci pour cette assemblée, merci pour cette église, merci pour ces prières, pour ces chants qui s'élèvent, merci pour ces cœurs. Et on l'a chanté, on l'a dit, on l'a prié, le Seigneur Jésus est un Seigneur qui nous renouvelle, qui nous fortifie, qui prend soin de nous à tous les moments de notre vie, dans la joie, dans la faiblesse, dans l'amour, dans la crainte, il est là partout, à tout moment. Et Pedro le disait tout à l'heure, on est actuellement là, tout de suite, réunis autour du Christ. Et ce Christ autour duquel on est réunis est aussi le Jésus de l'Apocalypse. Il est celui qui parle à Jean et qui donne les directives, les visions et qui donne aussi les lettres aux sept églises. Je suis venue il y a quelque temps, au mois de novembre, vous parler déjà de l'Apocalypse. Il brûle sur mon cœur ces temps. Et j'étais venue vous parler de la lettre d'Éphèse. Et certains parmi vous m'ont dit, « Ah, c'est quand que tu nous donnes la suite ?» Alors j'ai déposé ça au Seigneur et vraiment je l'ai senti travailler mon cœur pour la suite. J'ai dû me recadrer un petit peu, vous savez comment je suis, hein, une hyperactive. Alors il y a sept églises, donc ça fait beaucoup de choses à dire. Et puis je me suis dit, mon Dieu, si je prends un dimanche pour chaque église, il va me falloir, au rythme de tous les deux mois, il va me falloir un an et demi pour leur parler des sept églises. Alors le Seigneur, dans son grand amour, il m'a recadré un petit peu et vraiment, je me suis sentie inspirée par ce texte d'aujourd'hui. Et déjà, pour commencer, je ne sais pas si vous savez, mais l'Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie « ôter le voile ». Donc, dans cette lettre, cette église, le Seigneur veut vraiment nous aider, aider les chrétiens de l'Asie mineure de l'époque, mais aussi nous aider à vraiment ôter les peaux d'oignon qu'on a des fois sur les yeux, ôter le voile vraiment de nos yeux, mais aussi de nos cœurs, pour que vraiment on puisse l'écouter. Donc, ces sept lettres ont vraiment une portée qui va plus loin que seulement les sept églises. Elles ont une portée prophétique pour l'Église, pour les églises qui se sont succédées après les églises d'Asie. À travers ces lettres, le Seigneur Jésus a vraiment voulu nous informer, ça va là, vous m'entendez ? Vraiment nous informer, nous prévenir de ce qui pourrait nous arriver si nous n'écoutons pas sa voix. La dernière fois, donc, comme je vous le disais, je vous ai parlé de l'église d'Éphèse et je vous ai expliqué qu'elle était à la fois positive parce qu'elle avait persévéré dans la foi, elle s'était séparée du mal, mais en même temps, il y avait un point négatif que le Seigneur lui reprochait fortement, c'était le fait qu'elle avait perdu son premier amour. Et qu'en oubliant son premier amour, elle en avait oublié l'affection qu'elle portait au Christ. Et à cette église d'Éphèse, le Seigneur les encourage en leur disant, mais écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Quand on va plus loin dans l'Apocalypse 2, on voit la lettre église écrite à l'église de Smyrne. Donc là, nous avons le tableau complet d'une église en souffrance. Smyrne représente la période durant laquelle les chrétiens ont été persécutés par les Romains, où Satan a utilisé les Romains pour essayer d'éradiquer l'Église chrétienne. À l'Église de Smyrne, le Seigneur n'a fait aucun reproche, car elle avait persévéré malgré la souffrance, malgré les tortures. Donc du coup, il les a encouragés à rester fidèles, à ne pas avoir peur. Le sang des martyrs de cette Église-là a construit l'Église suivante, qui est l'Église de Pergame, qu'on trouve dans l'Apocalypse 2, au verset 12 à 17. Et cette église-là nous montre l'église sous Constantin, l'église qui est devenue l'église d'État. Cette église s'est en quelque sorte mariée avec l'État, avec le monde. Au verset 13, on voit que Jésus dit, elle a persévéré dans la foi en Jésus. Pourtant, il leur dit, je connais tes œuvres, je connais l'endroit où tu es établi, là où se trouve le trône de Satan. Là où se trouve le trône de Satan. Il dit à l'église de Smyrne qu'elle est établie là où est le trône de Satan. Il en rajoute un peu en lui disant, au verset 14, en lui disant, là où Satan est établi. Le Seigneur Jésus prévient l'église de Smyrne que Satan est au milieu d'elle. C'est à cette même période d'ailleurs que les fêtes païennes sont devenues des fêtes chrétiennes. Et que tout s'est mélangé. C'est les compromis dont Jésus parle au verset 14 et 15 quand il leur dit « Les gens se sont attachés à la doctrine de Balaam et à celle des Nicolaïtes. » Après cela, il les encourage à se repentir au verset 16. Ensuite arrive l'église de Thyar dans Apocalypse 2, 18-29. Celle-ci représente l'église du Moyen-Âge. Elle a commencé aux environs de 600 à peu près. Et dans cette église, le Seigneur reconnaît l'amour, la foi, la persévérance et le service. Pourtant, malgré toutes ces bonnes choses, cette église a laissé rentrer l'immoralité sexuelle et la fornication spirituelle. C'est ce que Jésus leur reproche avant de leur conseiller de changer d'attitude. Et de leur conseiller d'écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Là, encore une fois, il répète, écoutez ce que l'Esprit dit aux églises. Ensuite arrive le chapitre 3 et les versets 1 à 6 qui nous parlent de l'église de Sardes, où là, c'est l'état du protestantisme dans les temps qui ont suivi la réforme. On voit vraiment l'église durant les siècles. Les caractéristiques de cette période, c'est l'absence de vie spirituelle. Jésus leur dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et il rajoute, affermis le reste qui est sur le point de mourir. Au verset 4, il leur dit, quelques personnes qui n'ont pas été souillées, qui n'ont pas souillé leurs vêtements, marcheront avec lui, avec l'Esprit. Nous voyons là dans cette église les deux catégories de chrétiens à l'intérieur d'une même assemblée. Ceux qui sont vivants et ceux qui sont déjà morts. Et comme ceux qui sont déjà morts sont nombreux, le Seigneur encourage ceux qui sont vivants encore à tenir, à persévérer. Il leur dit, veillez à garder la parole, car le jugement viendra comme un voleur. Comme un voleur dans la nuit. Après cela, toujours au chapitre 3, versets 7 à 13, arrive l'église de Philadelphie. Philadelphie, ça signifie l'amour fraternel. Cette église représente une période bénie de la chrétienté. Au sein de cette église, il y a eu un énorme réveil et cette église est vraiment caractérisée par une fidélité et un grand amour à Jésus et à sa parole. Durant cette ère-là, la chrétienté a révélé beaucoup de vérités de l'Écriture qui avaient été cachées durant les autres siècles. Ils ont redécouvert et répandu dans le monde entier, avec une énergie extraordinaire, la parole du Christ. La communion fraternelle était la base de cette église. Cette église était située sur une zone frontalière, comme vous. Elle était à la porte du plateau qui donne accès à l'Asie centrale. Cette assemblée a gardé patiemment la parole. Elle n'a pas renié le nom de Jésus. Le Seigneur ne leur fait aucun reproche. Au contraire, il leur fait des promesses. Il leur dit qu'il les gardera à l'heure de la finale et il les encourage en leur disant « Je viens bientôt ». Il leur annonce son retour, la deuxième venue. Il leur dit qu'il va faire d'eux des piliers du temple et qu'il écrira sur eux le nom de Dieu. l'église de Philadelphie a sur elle écrit le nom de Dieu. Elle est encouragée. Puis arrive la septième église, celle de la Laodicée, dont je suis venue vous parler de manière plus détaillée aujourd'hui. L'église de la Laodicée représente la dernière phase de l'église à travers les siècles. Elle représente l'église actuelle. En tout cas, c'est ce que disent les auteurs et les théologiens. Cette lettre a une signification toute particulière parce qu'elle met en garde les vrais chrétiens. Elle les met en garde contre les traits de caractère qui sont si abominables aux yeux de Jésus. Et nous allons lire Apocalypse 3, les versets 14 à 18. Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de la Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et achète un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le tableau de la lettre à l'église de la Laodicée est très sombre, il est très noir. Là, vraiment, on peut lire la tristesse et la colère en même temps de Jésus face à cette église qui est tiède. Et on peut voir comment Jésus se présente à elle. Il se présente de trois manières différentes. Il dit d'abord, je suis l'Amen. Ce qui signifie certainement, vraiment, réellement. Lorsqu'on utilise Amen à la fin d'une prière, c'est vraiment un mot de confirmation, de renforcement. Un mot qui veut dire ainsi soit-il. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur confirmation et leur sûreté dans le Seigneur Jésus. Le Christ est pour ainsi dire le dernier mot de Dieu. Il est son Amen. C'est par le Christ que toutes les promesses que Dieu a faites depuis la création de la terre se réalisent. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, dans des sociétés où le Christ, où les valeurs sont renversées. L'ordre moral est abandonné et ce, jusque dans la chrétienté. Pourtant, malgré cela, le Seigneur est et demeure l'Amen de Dieu. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il en soit, quel que soit l'état de l'Église, le Seigneur Jésus est et demeure l'Amen de Dieu. Le deuxième nom qu'il prend, c'est le témoin fidèle et véritable. Ainsi, il met en avant ce que l'assemblée chrétienne devrait être, des témoins fidèles du Christ. C'est justement la signification des chandeliers d'or. Ils brillent dans la nuit, comme l'assemblée chrétienne devrait prier. Elle devrait être témoin fidèle et briller dans les ténèbres de ce monde autour de nous. Même lorsque les individus sont défaillants, même lorsque les assemblées sont défaillantes, lorsqu'elles n'accomplissent pas sa mission, Jésus demeure le témoin fidèle, parce que Dieu l'a envoyé en tant que tel. Le troisième nom que nous trouvons dans ce passage, c'est l'auteur de la création de Dieu. Jésus est donc le point de départ de tout ce qu'a fait Dieu et il est le point d'aboutissement de toutes les pensées de Dieu. Il est le créateur et il est l'Amen. Il est la première pensée de Dieu et il est la dernière. L'Épître aux Colossiens nous dit d'ailleurs que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est donc le commencement, le premier-né, celui qui était, qui est et qui sera, celui qui est l'Amen. Si la chrétienté, à travers les siècles, avait retenu cette pensée, cette idée que le Christ est le début et la fin, qu'il est le seul chemin menant du début jusqu'à la fin, si la chrétienté avait retenu ça et l'avait gardé dans son cœur, tel que Jésus l'a enseigné aux disciples, elle ne serait pas arrivée dans l'état déplorable dans lequel nous la voyons dans la lettre à l'église de Laodicée et dans laquelle nous la voyons chaque jour autour de nous. Nous vivons dans un monde et dans une époque où les gens se vantent d'avoir des droits et ils les revendiquent. L'être humain veut le pouvoir à tous les niveaux, même dans les églises chrétiennes. Quand je parle des églises chrétiennes, c'est toutes dénominations confondues. Le peuple, l'humanité, écoute la voix des bonimenteurs en tout genre. Mais qui écoute encore réellement la voix du Christ ? Qui écoute encore profondément la voix du Christ ? Quand je pose cette question, je vous la pose, mais je me la pose aussi. Combien de chrétiens dans ce monde appartiennent encore réellement au Christ ? Si on revient un peu en arrière sur l'église de Philadelphie, on voit que les chrétiens n'écoutaient pas la voix du monde, qu'elle écoutait seulement la voix du Seigneur. Jésus lui a dit, « Tu as gardé ma parole. » Dans cette église-là, ce n'étaient pas les droits humains qui primaient, c'était ceux du Seigneur. Ils n'ont pas renié le nom du Christ. Pour l'église de Philadelphie, le Seigneur a ouvert les portes en grand pour qu'elle puisse aller propager la parole partout. Un nombre incalculable de personnes se sont converties sous cette église-là. Parce que cette église a mis en pratique l'amour fraternel. Quelqu'un tout à l'heure a prié en disant, voilà, en parlant de ça, en disant l'amour pour son prochain, Seigneur, aide-moi à l'avoir. Et c'est ça, l'amour fraternel pour son prochain. L'église de Philadelphie, par son témoignage, a amené des conversions. Elle a été guidée par son amour du Seigneur et par cette promesse qu'il lui a faite, je reviens bientôt. L'église de Laodicée, quant à elle, présente le contraste le plus complet avec celle de Philadelphie. L'église de Laodicée est entrée dans une indifférence qui l'a conduite à la tiédeur. Jésus lui dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. » Elle n'a ni la froideur d'un rejet direct du Seigneur, ni la chaleur d'une réelle affection pour lui. Elle maintient extérieurement le nom du Christ, elle professe être chrétienne, mais elle n'a pas le cœur profond de celui de qui elle porte le nom. L'indulgence et la tolérance sont placées au plus haut niveau de l'échelle des valeurs et elles supportent le mal aussi large qu'il soit, elles le supportent et elles l'acceptent. Elle n'a en son sein ni le zèle qui plaît au Seigneur, ni le rejet de ce qui le dénigre. L'église de Laodicée, l'église dans laquelle nous sommes actuellement, n'a ni le zèle qui plaît au Seigneur, ni le rejet qui le dénigre. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe actuellement en Israël. Ça se passe aussi à d'autres régions, mais c'est parti d'Israël. McDonald's, pour ne pas les nommer, mais quand même, ils sont là. McDonald's a mis des nouvelles affiches. Et sur leurs affiches, ils ont mis le clown McDonald's crucifié sur une croix. Pour dire qu'il se sacrifie pour que les gens puissent avoir à manger chez eux. Les chrétiens d'Israël sont partis au taquet. Ils ont fait des pétitions, des manifestations, ils luttent parce qu'ils sont choqués par ça. Alors, moi, je suis allée voir un petit peu ce qui se raconte partout dans le monde. Et ce qui m'a interpellée, c'est que dans nos pays, les chrétiens, les assemblées disent « Oh, mais c'est pas grave, de toute façon, pour nous, Jésus, il n'est plus sur la croix. » Moi, ça m'a interpellée. Oui, Jésus, il n'est plus sur la croix. Mais l'acte de la croix en lui-même est toujours là. Et quelque part, quand les chrétiens d'Israël disent que à mettre de telles affiches, c'est une profanation au nom du Christ, eh bien, je trouve que c'est juste. Et je trouve que les assemblées qui disent « Mais c'est pas grave », je trouve que c'est grave, oui. C'est faire des compromis. C'est ne pas rejeter ce qui dénigre le Christ, son nom et ses actes. L'église de Laodicée a un regard d'indifférence vis-à-vis du vrai bien autant que vis-à-vis du vrai mal. Et c'est cela qui déplaît au Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ces raisons qu'il va les vomir de sa bouche. Si les racines de la tiédeur et de cette insensibilité ont pu se frayer un tel chemin parmi les chrétiens de cette église, ce n'est pas par ignorance de la vérité, ce n'est pas par manque d'enseignement. C'est plutôt par le fait que la chrétienté n'apprécie plus le Christ, le Seigneur Jésus, à sa juste valeur et pour qui il est réellement. Notre Seigneur le Christ n'est plus réellement aimé pour qui il est, le Fils de Dieu, le Sauveur de l'humanité, le Créateur du monde, l'Amen de Dieu. L'Église de Laodicée ont oublié qu'il est l'auteur de la création. Sans lui, on ne serait même pas là. Qu'il est celui qui prend soin de nous, même quand nous sommes misérables, pauvres, malheureux, aveugles, nus et pécheurs. Nous oublions qu'il est celui qui nous conseille d'acheter auprès de lui l'or purifié, parce que celui-ci nous permet d'acquérir le vrai trésor du sacrifice qu'il a fait pour nous à Golgotha. Il est celui qui nous revêtit du vêtement blanc, qui est le reflet de sa justice et de son pardon. Il est celui qui cache notre nudité et nos péchés, parce qu'il veut cacher la honte qui a été mise sur nous par Satan. Il la cache, il l'efface, il nous rend blancs, lavés et purifiés. Nous oublions cela. Nous oublions qu'il est celui qui veut mettre du collier sur nos yeux, souhaitant ainsi ôter le voile de notre incrédulité, de notre aveuglement. Qu'il est celui qui nous corrige par amour, qu'il est le témoin fidèle et véritable, qu'il est l'amen de Dieu, depuis avant même la création du monde et pour l'éternité, au siècle des siècles. Alors aujourd'hui, dans ce dimanche et dans les temps à venir, écoutons la voix du Seigneur Jésus qui dit à l'église de Laodicée et qui nous dit à nous en tant qu'église, en tant qu'assemblée. Quand il parle là, il ne parle pas à une personne, il ne parle pas à un membre, il parle à l'assemblée. L'assemblée est constituée de dirigeants, de responsables, de leaders, elle est constituée d'hommes, de femmes, de personnes. Quand une assemblée boite, tout le monde boite. Quand les gens boitent, l'assemblée boite. C'est, vous savez, l'histoire des vases communicants. Une assemblée est constituée de vous tous, et partout dans le monde, les assemblées sont constituées de plein de personnes. Quand les assemblées boitent, c'est les assemblées du monde entier qui boitent. Nous sommes appelés à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, écoutons-le. Le Seigneur Jésus, par cette lettre, a pris soin de nous prévenir. Alors, ne soyons pas sourds à sa voix. Écoutons-la avant qu'il ne soit trop tard, car son jugement va commencer par son Église. Il le dit au verset 19, il dit « Je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, les bien-aimés d'abord, les bien-aimés, les chrétiens. » Acceptons le conseil qu'il nous donne au verset 19 d'avoir du zèle, mais aussi de nous repentir. Invitons-le ou réinvitons-le dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos églises. Ne le laissons plus à la périphérie de nos existences, de nos êtres, de nos cœurs. Un ministère que j'ai entendu prêcher cette semaine a eu cette phrase, « Ne le laissons plus à la périphérie de nos existences, de nos êtres et de nos cœurs. » J'ai beaucoup aimé et je voulais rapporter aujourd'hui. Parce que le Christ se tient à la porte, il frappe. Alors ouvrons ou réouvrons-lui la porte avec des cœurs sincères et profondément imprégnés de lui. Osons nous repentir de tout ce qui nous rend tiède. Osons reconnaître si nous sommes tièdes, s'il y a des zones de nous qui sont tièdes. Osons le reconnaître et nous repentir. Osons nous repentir du manque d'amour que nous avons à son égard, du manque d'obéissance, du manque d'intérêt que nous lui portons. Osons le laisser entrer dans nos cœurs et dans nos églises, au point de pouvoir nous approcher encore bien plus de lui et de ne faire plus qu'un avec lui. Le Christ revient, il l'a promis, il vient chercher son Église, il vient chercher son épouse. En tant qu'épouse du Christ, nous devons nous revêtir de toutes ces choses, de toutes ces qualités à son égard. Imaginez, quand on se marie, nous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, quand on se marie, on se part de nos beaux atouts. Le mari met un beau costume, il va chez le coiffeur. Madame va chez la coiffeuse se faire une super coupe avec un beau chignon, elle met une super robe. Les invités mettent les belles robes, les beaux bijoux et tout. On se part de nos beaux atouts, de nos beaux attributs, de nos beaux bijoux et tout ça. Le Christ vient chercher son épouse. Que vous soyez des hommes, que vous soyez des femmes, le Seigneur vient chercher son épouse. Alors habillons-nous, pas seulement d'un costume extérieur, d'une belle robe ou d'un beau costume, mais revêtons-nous aussi à l'intérieur de tous ces sentiments d'amour, de fidélité, de compassion que le Seigneur le Christ attend de nous. Il attend de nous trouver dans la vérité et dans la profondeur de son amour. Il attend que nous soyons le sel et la lumière de la terre et qu'à son retour, il nous trouve avec nos lampes allumées. avec de l'huile dans nos lampes et nos lampes allumées. Alors, soyons ces lampes brûlantes de son amour que nous sommes censés être, celles qui éclaireront le monde autour de nous en vivant et portant la parole et son message d'amour partout où nous passerons. Amen. On va prier. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous rappelles encore dans ces temps troublés, tu nous rappelles encore ton amour. Tu ne t'impatientes pas, tu ne nous as pas abandonnés. Tu viens toujours nous rappeler encore combien tu as été fidèle, combien tu es fidèle et combien tu le seras. Tu nous rappelles que tu es là, toujours présent, mais que nous devons aussi faire notre part. Nous ne pouvons pas nous contenter de rester assis à attendre. Nous devons aussi mettre de l'huile dans nos lampes. Merci Seigneur de l'œuvre que tu es en train de faire autour de nous, pour nous et en nous. Merci Seigneur parce que tu nous encourages à ne plus être tièdes mais à devenir bouillants. Et cette œuvre, tu veux la faire en nous. Merci Seigneur pour ce que tu veux faire. Amen.